Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez de mots M-O-T-S aujourd'hui. La guerre des idées passe par des batailles pour le contrôle du langage, pour le sens à donner aux mots, disiez-vous hier. Mais cela implique aussi la création de sigles, de slogans.
Eh oui, prenez le label Alt-Right. Voilà une formidable trouvaille dont le créateur Richard Spencer est un militant américain d'extrême droite. Il se définit lui-même comme un identitaire blanc. Il a lancé en 2009 un site internet baptisé Alternative Right, en abrégé, tellement plus chic, Alt-Right. Selon l'idéologie du moment, on le sait, tout ce qui est alternatif est connoté positivement. Sa droite, à lui, Richard Spencer, n'a plus rien à voir avec le bon vieux conservatisme du Parti républicain. Elle est fâcheusement extrémiste et même franchement fasciste, selon Jason Stanley que je citais hier. Mais devenue Alt-Right, cette droite alternative bénéficie d'une réelle respectabilité et c'est bien le but recherché. L'usage d'une abréviation, ALT, pour alternatif, ajoute une touche de glamour supplémentaire. Il renvoie en effet au rock alternatif, un label apparu en 1979 pour caractériser les courants issus du punk et bientôt rebaptisé alt-rock dans le monde anglo-saxon. Dans les années 80 sont apparus par ailleurs les alternative comedies, assez proches de notre café-théâtre mêlant sketchs de cabaret et improvisation. Et puis il y a bien sûr la touche ALT pour alternate de nos claviers d'ordinateur qui donne accès à des fonctions alternatives. Bref, l'ALT, c'est chouette. Ça s'inscrit dans la tendance de toutes ces alternatives séduisantes proposées en remplacement d'une réalité forcément décevante comme l'autre économie, l'autre mondialisation et les médias alternatifs. Alors pourquoi pas la droite autre, l'alt-right ? Donald Trump a surfé sur ses nouveautés langagières avant d'être politique. La respectabilité, poursuit Jason Stanley, c'est ce que poursuivent les nouvelles extrêmes droites qui sont en train de bousculer la scène politique dans la plupart de nos vieilles démocraties fatiguées de leur liberté. En réalité, le nouveau fascisme a deux fers au feu comme l'ancien. D'un côté, la violence et le désordre qui ébranle l'ordre démocratique et de l'autre, une promesse d'ordre. Je cite Jason Stanley. La violence fasciste dans la rue et les mouvements politiques fascistes se renforcent mutuellement pour la simple raison que les partis fascistes ont besoin de cette violence afin d'apparaître comme pacificateurs. Sans la violence dans laquelle s'engagent certains fascistes, il manquerait aux partis fascistes ce qui leur permet de se différencier de leurs franges les plus extrêmes et ils ne pourraient pas se positionner en garant de l'ordre. Mais cela n'est pas très nouveau. Les mouvements fascistes des années 20 et 30 suivaient la même stratégie, encourager le désordre et la violence dans les rues afin de susciter un désir d'ordre, expliquer que la démocratie libérale est un régime faible, mais qu'eux-mêmes sauront rétablir la sécurité publique par des moyens musclés. Ce qui est beaucoup plus nouveau et que pointe Jason Stanley, c'est l'exploitation qui est faite par les nouvelles extrêmes droites du catastrophisme environnemental. Dans un avenir proche, prophétisent ces intellectuels, les ressources vont devenir rares, des populations entières vont fuir les calamités naturelles, seuls les peuples forts, les nations compétitives et sans scrupules passeront le test de la sélection naturelle. Car le fascisme a toujours eu partie liée avec le darwinisme social et sa morale impitoyable. Mais là où l'idéologie libertarienne pratique le culte du gagnant individuel censé prouver sa supériorité par ses victoires, le fascisme transpose cette idéologie au niveau des nations ou des groupes ethniques. Le problème, c'est que l'idéologue de Donald Trump a été envoyé en mission en terre européenne pour convertir nos concitoyens aux thèses de l'alt-right. Steve Bannon tente depuis plusieurs semaines de fédérer les populistes de toute l'Union européenne. Il ne cache pas que les extrêmes droites européennes sont si diverses qu'il éprouve bien des difficultés à tenter de les fédérer. Mais il a rencontré Orban en tête à tête et puis Salvini est très partant. Mais, par exemple, les démocrates de Suède, beaucoup moins.
Alors, que vient faire Steve Bannon en Europe? Quel est l'objectif?
Il ne s'en cache pas. Il veut créer en Union européenne une force politique eurosceptique suffisamment puissante, structurée et unifiée pour conquérir le tiers des siège au Parlement européen en mai. Une sorte de minorité de blocage, a-t-il expliqué au site Politico. Avec son mouvement, il compte fournir, je cite, « l'infrastructure de la victoire, comprenant une section statistique et analyse de données, les moyens techniques pour créer un centre de crise et de riposte rapide, bref, les méthodes mêmes qui ont permis à Donald Trump de réussir son OPA sur le Parti républicain, puis de conquérir la présidence des États-Unis ». Son bras droit à Bannon, l'avocat belge Michael Modricamen, fait ce constat. L'insurrection populiste est mondiale, notre mouvement va être mondial, nous devons l'organiser au plan mondial. Bref, une sorte d'international alt-right. Et Steve Bannon voit l'opportunité en Europe d'aller au-delà. Il a dit récemment vouloir tenter, je cite, de réunir les populistes de gauche et les nationalistes de droite.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.